Studio Tamani, voici nos informations en français.
À l'écoute de Studio Tamani, il est 8h à Bankass, la même heure à Dialassago. Mesdames, Messieurs, bonjour, voici le journal. Au sommaire de cette matinale, les agriculteurs des régions du centre du pays se disent préoccupés par la montée des eaux. À Bandiagara et Sigou, les responsables de l'agriculture affirment que cela peut impacter le rendement de cette année. Alors que le Conseil de sécurité n'a toujours pas réagi à la saisine à lui adressée par le Mali contre la France, des organisations de la société civile et de la diaspora africaine souhaitent que cette réunion se tienne. La pastèque colorée se fait rare sur le marché au profit de celle à la couleur unique verte. Les vendeurs expliquent cette situation par plusieurs facteurs. Les détails à suivre dans ce journal qui vous sera présenté par Sekou Gadjigo. Mamadi Keïta sur la mise en onde. La montée des eaux préoccupe les agriculteurs de certaines régions du centre du pays. À Bandiagara et Sigou, les responsables des services d'agriculture affirment que cette montée des eaux n'est pas sans conséquence sur les cultures dans ces régions. Pour eux, de nombreux champs peuvent rester inexploités, tandis que d'autres semences seront aussi détruites par l'eau. Les détails avec Sita Sidibé.
Les terres sont suffisamment humides en cette saison hivernale, affirment les responsables de l'agriculture à Bandiagara. Cette abondance d'eau dans la localité va sans doute impacter sur le rendement de cette année, ajoute-t-il. Mohamed Ouli Zeini, chef sous-secteur de l'agriculture de Bandiagara.
Déjà, nous avons signalé qu'il y a vraiment un excès d'humidité dans les sols et ça a joué sur le développement des cultures vraiment par endroits. Donc cet excès de pluie vraiment a beaucoup joué sur le développement des cultures et sans doute ça va jouer sur le rendement.
Idrissa Siré est le chef de division conseil vulgarisation agricole à la direction régionale de l'agriculture à Sigou. Pour lui, la montée des eaux dans les champs peut empêcher les cultivateurs d'entretenir leurs semences à hauteur du souhait.
La conséquence de la montée des eaux peut empêcher aux paysans de désherber leurs champs. Particulièrement les champs du mil, du sorgho et même du fonio peuvent être vite détruits par l'eau.
À noter qu'au-delà de l'abondance des eaux constatées dans plusieurs zones d'agriculture, les paysans décrivent aussi le manque d'engrais dans certaines localités du pays.
Pendant ce temps, des populations continuent de faire les cultures hautes à Bamako malgré son interdiction par les autorités. Ces cultures ont été interdites en 1992 par le gouvernorat du district pour des raisons sécuritaires. À cause de leur hauteur, elles peuvent servir de refuge ou de cachette. Pour les malfrats, des habitants de la capitale dénoncent le non-respect de cette mesure d'interdiction. Le reportage de Moussa Malé Sissoko.
De Sébéninkoro, en passant par ACI 2000, Sotiba et Quartier Mali jusqu'à la zone aéroportuaire ou autre endroit de la capitale, on aperçoit des champs de maïs, mil ou encore gombo. Ces cultures hautes sont exercées par certains citoyens sur des parcelles en cette période hivernale. Ils disent exercer cette activité pour nourrir leur famille.
Nous sommes ici sur une terre détruite que nous sommes appelés à quitter. Nous souffrons énormément. Mon champ n'a pas donné cette année, ce qui n'était pas le cas pour les années précédentes. Cette terre appartient à quelqu'un d'autre. C'est ma belle-sœur qui cultive du gombo ici. Avant, elle gagnait un peu.
Le maïs n'est plus assez cultivé. C'est juste pour avoir de quoi manger.
Toutefois, cette activité est interdite par le gouvernorat du district de Bamako à travers son arrêté numéro 30. Des mairies sont chargées de la surveillance et du contrôle de l'application de ces dispositions. Bougari Fané, chef de l'antenne de bon ordre de l'environnement à la mairie de la commune 4, soutient que la pratique a fortement diminué dans sa commune.
Cet arrêté du gouverneur du district de Bamako, c'est l'arrêté numéro 30 du 16 août 1992. La haute culture, c'est des genres de cultures tels que le maïs, il y a le gombo, toutes les cultures qui dépassent la hauteur de l'homme. Il y a des sanctions qui sont prévues par la loi dans le code pénal. Ils peuvent aller au paiement et jusqu'à l'emprisonnement. Tout cela pour décourager les gens à la pratique des cultures hautes.
Pour de nombreux habitants, les autorités manquent de fermeté vis-à-vis de ces agriculteurs quant à l'application de la loi.
Vous pouvez donc réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. La troisième réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali s'est ouverte hier mardi à Lomé au Togo. Des représentants de la CEDEAO, de l'Union africaine ainsi que les représentants du secrétaire général de l'ONU au Mali et en Afrique de l'Ouest participent à la rencontre. Une délégation gouvernementale malienne dirigée par le ministre des Affaires étrangères prend également part à ces discussions. À l'ouverture de la réunion, le chef de la diplomatie malienne a déclaré que le Mali reste ouvert aux partenaires. Il a toutefois rappelé que le pays n'acceptera pas qu'on lui impose des agendas ou des dictats. Nous reviendrons en détail sur cette réunion dans nos éditions du soir. Plusieurs dizaines de terroristes neutralisés et d'autres blessés, des armes et motos détruits et du bétail récupéré. Voilà le bilan des opérations menées à travers le pays par les forces armées maliennes du 10 au 29 août 2022. Ces informations ont été communiquées lundi dernier 5 septembre par la direction de l'information et des relations publiques des armées. C'était au cours de sa traditionnelle conférence de presse. Ousmane Nyalibouli nous en dit plus.
Selon la direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA, environ 90 terroristes ont été neutralisés et 41 blessés au centre du pays. Selon ses responsables, 2 véhicules, 48 motos, 200 moutons, 15 armes à feu ont été récupérées et 15 engins explosifs improvisés détruits au cours de ces opérations. La DIRPA affirme que plusieurs proches des chefs terroristes ont été mis hors d'état de nuire. Parmi eux, 10 combattants proches du terroriste Oumar Ongoïba, y compris une grande figure recherchée du nom de Aboura Ongoïba alias Ouzey Fa. En ce qui concerne le théâtre est de l'opération Maliko, des frappes aériennes ont ciblé les terroristes auteurs de l'attaque de Tessit dans le secteur d'Etin Djaran. Les responsables de la DIRPA annoncent que près de 47 terroristes ont trouvé la mort, plusieurs motos incendiées et d'importantes quantités d'armes et de munitions récupérées. Ils ajoutent que 2 chefs terroristes ont également été neutralisés lors des combats entre l'Elehoy et Tessit. Il s'agit de Youssouf Ibrahim et Hamadoun Argaya.
8h07, des organisations de la société civile et de la diaspora de 15 pays d'Afrique francophone soutiennent la plainte du Mali contre la France au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce dernier n'a toujours pas réagi à la saisine du Mali accusant la France de fournir armes et renseignements à des groupes terroristes. Les détails avec Intal Akbilal.
Ces organisations de la société civile et de la diaspora africaine ont apporté leur soutien dans un manifeste. Pour ces regroupements, cette saisine est une opportunité pour le Conseil de sécurité de l'ONU d'élucider les raisons de la persistance et de l'expansion du terrorisme et du chaos dans le Sahel. Ces organisations appellent l'ensemble des États membres de l'ONU à une contribution effective à la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité en vue d'examiner la plainte du Mali. À l'intérieur du pays, des soutiens de la transition invitent le gouvernement malien à ne pas renoncer à l'examen de sa plainte. Ils affirment leur soutien au pays pour que la vérité soit dite sur les agissements de la France sur le sol malien. Il faut rappeler que depuis le 16 août dernier, le Mali a dans une correspondance adressée au Conseil de sécurité demandé une réunion d'urgence sur la situation du pays. Dans cette lettre, les autorités maliennes accusent la force Barkhane de fournir des renseignements et des armes par voie aérienne aux terroristes. 2 semaines après le dépôt de cette plainte, le Conseil de sécurité n'a toujours pas répondu au Mali.
Intala Akbilal. Sur un tout autre sujet, une formation sur la gestion des déchets biomédicaux s'est ouverte hier mardi à Bamako. Près de 200 agents de santé prennent part à cette session. Objectif, lutter contre les déchets dans les structures sanitaires et même à domicile. Cet atelier est organisé par le ministère de la Santé et de l'Action sociale en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Le reportage de Sita Sidibé avec la voix de Issa Togola.
Pour Dr Abdoulaye Sanogo, directeur général de l'hôpital Gabriel Touré, parmi les 80% des déchets collectés dans les structures sanitaires, les 15% représentent un grand risque pour la santé humaine.
Concernant la gestion proprement dite des déchets biomédicaux, aujourd'hui dans le monde, 85% des déchets produits au sein des structures sont comparables aux ordures ménagères. Dans 15% des cas, ces déchets sont considérés comme des déchets dangereux qui peuvent être infectieux.
De son côté, l'Organisation mondiale de la santé affirme que cette formation permettra aux participants de comprendre les risques liés aux déchets biomédicaux. Souris Ibrahim Boiré, représentant de l'OMS et conseiller santé-environnement.
Le présent atelier vise en premier lieu à réduire les risques sanitaires liés à la gestion des déchets biomédicaux, non seulement pour les patients, mais également pour le personnel. Et ces déchets présentent plusieurs risques, dont physiques, infectieux et même d'intoxication. Ces risques peuvent toucher l'environnement à travers la pollution de l'air.
Cette formation prendra fin le 30 septembre 2022. Les participants attendent y mettre du tien afin de lutter efficacement contre les déchets biomédicaux.
Autre sujet, le président de la transition a promulgué la loi portant création de la cellule d'appui à l'emploi et à la formation professionnelle des diplômés en langue arabe, CFORPA. L'Union des jeunes musulmans du Mali se réjouit de cette nouvelle. Selon son président, cet organe permettra aux diplômés en langue arabe de participer à tous les concours et recrutements au Mali. La cellule est composée de 3 services, notamment la formation professionnelle, l'entrepreneuriat, l'insertion socio-professionnelle. Mohamed Makiba est le président de l'Union des jeunes musulmans du Mali. Il est joint au téléphone par Jiadata Maïga.
Les médias sont des talibés au Mali. Sont laissés à eux-mêmes après leurs études, que ce soit au niveau même ceux qui sont sortis des grandes universités du monde arabo-musulman sont là. Le gouvernement a eu le courage nécessaire pour voter au niveau du 18 mai, c'était le conseil des ministres. Nous, on est très contents, on est très heureux. Nous, on a fait ce combat là pendant des années. Et c'est une chance pour tous les diplômés formés en langue arabe. L'initiative vient de l'IJMAN, c'est l'Union nationale des jeunes musulmans de Mali à travers son congrès de 1990-91, comme ça. Ce FORPA, c'est l'île d'appui à la promotion de l'emploi des diplômés formés en langue arabe. Là-bas, il y a 4 services. Il y a déjà l'insertion socio-professionnelle et les diplômés formés en langue arabe. Maintenant, il y a une facilité de participer à tous les concours, que ce soit fonction publique, collectivité, police, gendarmerie, ils peuvent participer. Donc, s'il n'y a pas cette cellule-là, c'est très difficile.
Nous en arrivons à présent au dossier du jour. Nous parlons de la pastèque. Aujourd'hui, c'est l'hivernage et c'est la cueillette de la pastèque qui bat son plein au Mali. Cependant, la pastèque colorée qui était facilement accessible se fait rare sur le marché. Elle a laissé place à la variété à la couleur unique verte. Une situation que déplorent certains consommateurs qui jugent la pastèque colorée plus douce. Mais pour les revendeurs, la nouvelle variété de pastèque est facile à reproduire et moins coûteuse. Le reportage de Lala Aïcha Walet Imfa.
Les vendeurs de pastèques affirment que la nouvelle variété se reproduit très vite que la version colorée. Cette variété a besoin de peu d'eau et s'est mûrie à 3 mois déjà. C'est pourquoi elle est plus sollicitée, précise-t-il.
La nouvelle variété n'a pas besoin de beaucoup d'eau pour la produire.
Parce que ça pousse vite et moins de difficultés.
Elle est rapide que l'autre, c'est pourquoi elle est appréciée.
3 mois après la semence, elle est déjà mûre.
Cependant, les consommateurs estiment que la pastèque multicolore est plus douce, plus sucrée et peut être conservée pendant des jours sans conséquence.
Les goûts ne sont pas les mêmes. Bon, le nouveau, si ce n'est pas des deuxièmes, moi j'en trouve pas de problème. Côté santé, quoi.
Avant, les pastèques, bien, c'était plus bio. Contrairement au jour d'aujourd'hui où il y a trop de produits chimiques qui sont utilisés.
La pastèque d'avant est sucrée et on peut la conserver longtemps.
L'ancienne pastèque est bonne et douce.
Celle d'avant est la meilleure.
Il faut noter que la pastèque a des propriétés bénéfiques pour la santé selon les spécialistes en la matière.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse, de la République tchèque et par l'Union européenne.
Le reste de l'actualité à travers le pays en quelques brèves. À Yorosso, plus de 60 écoles des communes de Boura, Kifoso et Koumbia ont reçu lundi dernier 5 septembre des kits sanitaires. L'objectif est d'aider les écoles bénéficiaires à la riposte contre la COVID-19 à travers le respect des mesures d'hygiène. Le don composé de seaux, de bidons, de savon et d'eau de Javel a été offert par l'ONG Gradecom en partenariat avec la fondation Strom. Le kilogramme de la banane est passé de 700 à 750 francs CFA depuis le mois passé à Koulikoro. Cette augmentation soudaine s'explique selon les revendeurs par les frais de transport qui ont également connu une augmentation. La banane qui vient de la région de Yoila se fait aussi rare, soutiennent des commerçants. Un renforcement de capacité des enseignants sur la culture de la paix a débuté lundi dernier à Kaï. 19 enseignants venus des caps de Ambididi, Yelimane, Kaï, Rive, droite et gauche participent à la formation. La session de 5 jours est organisée par le ministère de l'Éducation nationale et financée par le projet d'amélioration de la qualité des résultats de l'éducation pour tous au Mali, MICRA. 8h14 se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la réécouter sur notre site studiotamani.org ou en appelant au 37-321 sur la plateforme Viamo. Sekou Gadjigo vous l'a présenté, Mamadi Keita sur la mise en onde. Accorder des faveurs ou des privilèges à quelqu'un pour son apparence est courant dans la société malienne aujourd'hui. Dans les services publics ou privés, des gens dénoncent cette pratique. Pour des sociologues, la discrimination dans les services à cause de l'apparence peut parfois être source de problèmes, alors que des traditionalistes estiment que l'apparence a toujours compté dans notre société. Le reportage de Lalé Tangara.
De plus en plus, des Maliens se disent victimes de discrimination à cause de leur apparence, que ce soit dans les services publics ou même dans les structures de santé. Ta prise en charge dépendra de ta façon de paraître. Si certains le comprennent, d'autres le trouvent frustrant.
D'après les Bambara, l'apparence nous facilite la tâche dans beaucoup de situations.
Pour chercher des marchés, on prend toujours en compte ton apparence.
Partout dans le monde, on priorise l'apparence. C'est pour avoir un traitement de faveur en retour. Que ce soit à l'hôpital ou à la banque, cela se passe partout.
C'est juste de la cupidité.
L'apparence est-elle devenue plus importante dans notre société aujourd'hui? Le traditionnaliste Fode Moussa Sidibé répond que cela n'est pas nouveau. Dans la société malienne, l'homme essaie toujours de soigner son image en fonction des endroits. Mieux, il affirme que l'habillement définit le statut social.
L'être humain, depuis qu'il a commencé à se couvrir, il y a des différenciations qui sont apparues. Il y en a qui se couvraient mieux, même avec les feuilles d'arbres, les troncs, etc., etc. Mais quand on retombe dans notre société, l'habillement était lié à la classe sociale. Très anciennement dans notre société, la stratification sociale correspondait à l'apparence, ou l'apparence correspondait à la stratification sociale. Tu ne peux pas être d'une classe sociale et accepter de t'habiller d'une certaine manière.
Pourtant, le sociologue professeur Kaoulé Tongola affirme que l'attitude qui consiste à privilégier une personne à cause de son apparence peut avoir des conséquences, notamment dans les services. Selon lui, ce sont les règles qui doivent être respectées.
Ça crée des problèmes parce que vous perturbez un ordre que vous avez trouvé établi effectivement devant un service. Vous n'avez pas attendu pas votre tour pour être servi, même si vous êtes aidé en cela par ceux-là qui sont laissés complexés par votre vêtement. Parfois, vous ne vous imposez pas, vous ne demandez pas à ce qu'on vous fasse passer en priorité, mais ce sont les individus eux-mêmes, n'est-ce pas, qui sont là, qui sont chargés de rendre, de distribuer effectivement le service. Ce sont eux effectivement qui rentrent dans ce jugement-là, qui se laissent intimider, alors qu'ils se croient obligés, n'est-ce pas, de permettre, n'est-ce pas, que vous enjambiez tout le monde, que vous foulez au pied lors d'arrivée pour se faire servir en premier.
L'apparence est inhérente à la nature humaine et à la vie, ajoutent les traditionalistes. Toutefois, la population demande l'égalité dans les prises en charge, dans les services pour le bon fonctionnement de la société. Comme on le dit, l'habit ne fait pas le moine. Et quant à l'apparence, elle est parfois trompeuse.